RCF. Dans l'évangile de Marc que nous lisons ce dimanche, nous sommes au tout début de la vie publique de Jésus lorsqu'il se rend à la synagogue de Capharnaüm un jour de Shabbat. Jésus s'inscrit dans la tradition de ses pères qui se rassemblent chaque semaine autour des Écritures. Ceux qui sont venus ce jour-là n'en reviennent pas de la pertinence avec laquelle il va prendre la parole, mais plus encore, ils vont découvrir combien le Verbe qu'est Jésus devient acte au service de la vie lorsqu'il rend à la liberté un homme littéralement possédé. Pour commenter cet évangile, je reçois François Lestang, bonjour.
Bonjour Patrice.
Je rappelle que vous êtes bibliste, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, et nous commençons comme d'habitude par écouter la parole chez Marc, chapitre 1, versets 21 à 28.
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi ! Sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée.
François Lestang, un mot sur le contexte, à quel moment a lieu cette scène dans l'évangile de Marc ?
Donc c'est tout au début de l'évangile, donc juste avant, donc il y a eu l'appel des quatre premiers disciples, et c'est au bord du lac de Galilée, et donc Capharnaüm, c'est aussi une ville de pêcheurs qui est au bord du lac de Galilée. Donc on est dans un contexte du tout début de l'évangile, où Jésus annonce que le royaume de Dieu est tout proche. Voilà, c'est ça qui est en train de se manifester, on va assister à une première manifestation de ce royaume avec cette victoire sur les esprits. Jésus auparavant avait été au désert, après son baptême, où il était tenté par le diable pendant 40 jours. Et puis, cette victoire qu'il a remportée, il vient ensuite l'annoncer à tous et la répandre pour tous dans cet épisode d'aujourd'hui de la synagogue où un homme va être libéré, rendu à une parole vraie.
Il faut rappeler donc que dans l'évangile de Marc, il n'y a pas les récits de l'enfance, hein, qui se situent plutôt chez Luc et Matthieu. On passe directement à la vie publique, hein. C'est oui, l'essentiel.
On commence par Jean-Baptiste dans le désert et puis le baptême de Jésus. C'est-à-dire que le rythme de Marc est quelque chose de très scandé par le « et aussitôt, et aussitôt, et aussitôt ». Comme si Marc n'avait pas le temps de prendre beaucoup d'espace pour raconter. Et puis voilà, aussitôt, aussitôt, déjà trois fois dans notre texte, on aura le « et aussitôt ». Et il y a presque une quarantaine de fois, 41 fois dans l'évangile de Marc, on a ce « et aussitôt » pour dire on avance et on est toujours à la suite de Jésus qui a, comme dirait, presque un métro d'avance, il est toujours devant, il nous précède. Et donc Marc, c'est à la suite de Jésus qui est toujours plus loin.
Lisons avec vous cet évangile. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Quel est ce village? Que représente-t-il?
Alors Capharnaüm en hébreu, c'est le village du consolé ou du consolateur. C'est un village qui est à la frontière entre la Galilée et la Traconitie. Donc probablement il y avait un espace aussi pour les douanes. C'est là qu'on va trouver Lévi avec l'appel du publicain parce que c'est un endroit de passage. C'est aussi une route marchande importante. Donc voilà, c'est un village dans lequel il semble que Pierre se soit installé avec sa femme et sa belle-mère parce que dans l'épisode suivant, on verra que la belle-mère de Pierre va être guérie par Jésus. Un lieu au bord de la mer, un lieu voilà où il y a du commerce et de la pêche, un lieu intéressant. Et c'est vrai que c'est distant de Nazareth. Jésus vient de Nazareth. Nazareth, c'est quand même une quarantaine de kilomètres dans les terres. Donc, il y a presque 2 heures de marche pour rejoindre Nazareth à Capharnaüm. Donc voilà, Jésus qui a quitté son propre lieu, celui de Nazareth, pour venir au bord du lac, dans un lieu très passant, une voie de circulation, un lieu de rencontre, un lieu où de fait il y a des pêcheurs. Et cette dimension d'être pêcheur d'hommes qu'il avait annoncé, en quelque sorte, elle va commencer à se vérifier dès maintenant.
Alors, dans ce lieu de brassage, Jésus se rend à la synagogue. Aussitôt, dit Marc, le jour du Shabbat, Jésus se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. Donc c'est la première grande sortie publique de Jésus.
Oui, et autant dans Saint-Luc on aura ce grand discours à la synagogue de Nazareth, là, qu'est-ce qu'il enseigne? On ne sait pas, mais il y a une parole qui surprend. Et on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette parole d'étonnant que... Mais il faudra attendre un peu plus pour avoir le discours de Jésus, et on va l'entendre beaucoup en parabole. Au long de ces enseignements du quotidien, il y aura beaucoup de paraboles qui vont venir jusqu'à ce grand discours du chapitre 4. Mais on ne sait pas pour l'instant ce qu'il enseigne, sauf que ça n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qui vient de son fond propre, ou plutôt, j'ai envie de dire, qui vient de l'Esprit Saint qu'il a reçu au baptême, qui vient de cette dimension d'être le Fils du Père, cette dimension propre de Jésus qui dit, avec lui, le royaume est là, et de fait, le type de parole est différent.
Alors, on va revenir hein, sur cet aspect-là, qu'ils sont frappés, les auditeurs, par sa parole, mais peut-être deux mots sur comment ça se déroule. Vous connaissez bien le judaïsme, c'est une sorte de dimanche pour les Juifs, le jour du Shabbat.
Shabbat, ça veut dire, donc c'est de la racine qui veut dire cesser, s'arrêter. Et donc, c'est le jour où on s'arrête, et spécialement aujourd'hui, en tout cas dans la synagogue, on écoute la lecture de la section d'un des cinq livres, des cinq premiers de la Bible, qu'on appelle la Torah, et on a deux, trois, quatre chapitres, et ensuite il y a une parole prophétique qui est lue, et à partir de cette parole prophétique et de cette longue section des premiers livres de la Bible, on a souvent un commentaire. Et donc on a un bel exemple de ça, donc dans l'Évangile selon saint Luc. Mais c'est vrai qu'ici, Marc ne fait que qu'évoquer l'enseignement de Jésus, et on n'a pas le contenu si ce n'est que avant on a dit, il enseignait que le royaume de Dieu est proche. Et de fait, c'est sa propre présence qui manifeste déjà ce royaume tout proche.
Le fait que Marc fasse rentrer Jésus en scène dans une synagogue, est-ce que c'est signifiant? Parce qu'il aurait pu intervenir dans un champ, dans la campagne. Je pense qu'il y a quand même un...
Alors, il le fera aussi.
Mais en premier.
Parce que c'est en premier, vraiment. Parce que juste avant, il était quand même au bord du lac. C'est là qu'il a appelé les premiers disciples. Donc, on sait qu'il s'est promené dans l'ensemble de la Galilée, ce que disaient les premiers versets avant. Donc, il a appelé les disciples au bord de la mer. Au bord de la mer, il va de nouveau s'y situer ensuite pour enseigner. Oui, il est partie prenante de ce peuple. Et donc, comme partie prenante, comme c'est le jour où on s'arrête pour écouter, pour étudier, pour être ensemble, de fait, il va s'associer au peuple d'Israël qui est à l'écoute de la parole, à l'écoute de l'étude. Et c'est cette question de la parole qui, je crois, est essentielle parce que la parole de Jésus, elle tranche sur d'autres paroles.
Alors justement, François Lestang, Marc nous dit que dans la synagogue, on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Et qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Parce que fréquemment, dans la tradition d'Israël, on cite le maître duquel on tient l'expérience ou la tradition ou l'enseignement. Et donc on parle au nom d'un autre et on part en disant « j'ai été formé par tel maître et mon maître rapportait que son maître disait que ». Donc cette dimension-là d'une chaîne de transmission de la tradition orale, elle est très importante dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Et on dit même que ne pas citer ses sources, c'est retarder l'avenue du Messie. À tel point, c'est important de citer de qui on tient. Mais Jésus ne dit pas « je tiens ça de Rabbi un tel ou de Rabbi un tel ». Jésus vient donner une parole qui lui vient de son Père. Et c'est ça qui est vraiment stupéfiant, cette autorité propre de Jésus, cette manière d'enseigner, dont je parlais des paraboles. C'est vrai que la manière d'enseigner sera différente. Il ne va pas commenter tel ou tel verset, mais il va ouvrir un espace de liberté, un espace de nouveauté, quelque chose qui est donné à entendre d'une irruption du royaume. Le royaume se manifeste et la parole de Jésus, même si elle n'est pas du tout explicitée ici, mais dans d'autres textes qu'on verra dans les prochaines semaines de cette année consacrée à Saint-Marc, on va les entendre, vont nous ouvrir cette dimension d'une venue du royaume dans une autre logique.
Jésus est comparé là au scribe, puisqu'il est fait allusion au scribe. Le scribe, c'est qui exactement?
Donc le scribe, littéralement, c'est celui qui s'est formé des lettres, hein, c'est le grammateus. Mais d'ailleurs ça, c'est ceux qui ont l'expérience de la loi. Alors fréquemment, dans l'évangile selon saint Marc, ils sont liés aux grands prêtres. Donc c'est ceux qui ont le savoir du temple, le savoir de l'écriture, le savoir des règles. Ils connaissent les règles, ils savent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et voilà que Jésus va un peu les surprendre, les dérouter. Mais il y a au moins un scribe, qu'on verra dans le temple vers le chapitre 12, qui saura, comme Jésus, savoir que le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et Jésus lui dira, toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc les scribes sont souvent en opposition à Jésus, mais il y a quelques scribes qui trouvent grâce quand même à ses yeux.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
François Lestang, la scène se poursuit dans l'évangile que nous lisons ce dimanche et que l'on retrouve, je le rappelle, chez Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Un homme tourmenté par un esprit impur. Qu'est-ce qu'un esprit impur, François Lestang ?
Alors, ce terme d'esprit, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre de la réalité, de l'invisible, quelque chose d'invisible qui agite. Donc, esprit, c'est le vent. Et donc, le vent, on voit son action, mais on ne peut pas mesurer le vent autrement que dans ce qu'il fait. Et là, on a un certain nombre de fois dans l'évangile de Marc où on nous parle soit de daimonion, de démon, soit d'esprit impur. 12 fois, on parle d'esprit impur dans l'évangile de Marc. Et pur ou impur dans ce cas-là, ça s'oppose à saint. C'est-à-dire, pour rentrer devant Dieu, il y a cette dimension d'être purifié au sens d'être unifié. Et je crois qu'une des questions de ce texte, c'est on a affaire à quelqu'un qui est profondément divisé et que l'enjeu de cette impureté, c'est ce mélange, cette division, cette manière d'être. Donc, il y a dans le monde de Jésus la conviction qu'il n'y a pas que ce que nous voyons, mais qu'il y a aussi tout un monde invisible, peuplé d'anges et de démons, peuplé bien sûr de bon, le saint béni soit-il, mais aussi toutes sortes de réalités. Et dans le credo, nous, les catholiques et chrétiens, nous confessons « Je crois en Dieu, créateur de l'univers visible et invisible ». Et invisible, ce n'est pas seulement ce que mes yeux n'arrivent pas à percevoir parce que ça serait trop loin, c'est toute cette dimension d'un monde spirituel. Donc dans le monde spirituel qu'habite Jésus et ses disciples, il y a des anges, il y a aussi des esprits mauvais. Alors nous, on a envie de dire, oui, mais là, fréquemment, c'est une maladie qui est associée à un esprit. C'est vrai que les distinctions sont pas claires entre maladie et esprit mauvais, mais dans l'ensemble, on entend qu'il y a des causes qui dépassent l'homme, et en particulier, il y a des causes qui divisent l'homme. Et là, on a cet exemple d'un homme dont la parole est agressive.
Donc, l'impureté dans la tradition juive, ça n'est pas une histoire d'hygiène, de propre ou de sale, mais une question d'unité, être entier ou pas. Le contraire de la division.
Oui, c'est quelque chose qui permet d'être devant l'unique, le Dieu saint. Donc c'est vrai que ce qui s'oppose, donc il y a pur et impur, mais c'est vrai que dans le texte on le voit, ce qui s'oppose à impur, c'est vraiment cette sainteté. Et une sainteté qui est une unification, une unité, une capacité d'être autre sans être menaçant. Le saint de Dieu n'est pas un homme, il ne fait pas nombre avec les hommes. Il y a quelque chose qui est donné là. Et donc c'est que les adversaires de Dieu sont ces souffles, mais qui sont impurs ou rendent impurs. Alors ce qui est curieux, c'est que la traduction qu'on a au niveau liturgique dit « était tourmenté par un esprit impur », le grec est beaucoup plus sobre, il parle d'un homme qui était en esprit impur, comme s'il était dans un milieu où tout était mauvais, mais Jésus va donc faire sortir cet esprit, donc cette idée que l'homme est comme un contenant, comme une outre qui serait gonflée d'un vent mauvais, et il s'agit de faire sortir le vent mauvais pour que la vérité de l'homme puisse s'exprimer. Voilà, mais donc c'est vrai que le monde de Jésus est rempli de ces présences à la fois angéliques et démoniaques.
Alors, esprit qui traverse l'homme, mais aussi une voix, puisque l'homme crie, nous dit Marc, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Comment comprendre ce passage ?
Déjà, on notera qu'il y a une alternance très curieuse entre le « nous » et le « je ».« Que nous veux-tu ? » Le grec dit très littéralement, comme dans l'hébreu, « Quoi à toi et à nous ?» Et après, je sais qui tu es. Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais. Donc, il y a un je et il y a un nous. Et on va trouver le même genre de phénomène quand on sera au bord du lac, mais de l'autre côté, à Gadara, en Marc 5, avec un homme qui dira qu'il a une légion de démons à l'intérieur. Il est à la fois un et pluriel. Il sait jamais s'il doit être en haut ou en bas, la nuit ou le jour. Il y a quelque chose qui est profondément divisé de ce que fait cet esprit-là. Donc, est-ce qu'il est je ? Est-ce qu'il est nous ? Et puis, il prétend savoir qui est l'autre ? Je sais qui tu es. Et ce « je sais qui tu es » est très étrange. Donc, il essaie de prendre autorité sur Jésus comme un contre-exorcisme. On sait que dans les textes magiques de l'époque de Jésus, on a la recherche du nom du démon. Et quand on a le nom du démon, on peut le faire sortir.
Dans les exorcismes.
Dans les exorcismes, pas dans nos évangiles. Parce que justement, Jésus n'a pas besoin du nom du démon. Sa simple présence est suffisamment puissante pour que toutes sortes de démons s'en aillent. Mais dans d'autres textes qu'on a à l'époque, dans un testament de Salomon qui est un texte apocryphe, on a cette dimension de chercher le nom du démon. Or là, c'est le démon qui nomme Jésus comme pour s'en débarrasser, comme un contre-exorcisme. Et donc là, comme pour chasser Jésus. Et donc c'est de dire, quoi entre toi et moi, il y a une revendication en disant, cet homme-là, il est à moi, ne vient pas m'en dépouiller. J'en ai pris possession. Vous parlez de possession. Donc, il est à moi dans cette division, dans cette impureté, dans cette incapacité à être dans une vérité. Et le « je sais qui tu es ».
Ça, c'est très fort, là. Le « je sais », le savoir. Oui. Savoir qui est l'autre, c'est terrible, ça. C'est, oui. C'est l'enfermer dans une case. C'est le posséder, pour le coup, aussi.
Oui. Et là, ce « je sais qui tu es », en fait, pour moi, c'est le contraire de la foi. Parce que tout l'enjeu de l'évangile de Marc, c'est de risquer sa parole, risquer sa foi à la suite de celui qui nous entraîne au-delà de ce qu'on pensait, ce Jésus. Et lui, il dit déjà, je sais que tu es le Saint de Dieu. C'est vrai, mais c'est pas ce qu'il faut dire, parce que c'est pas de l'ordre du savoir. C'est de l'ordre précisément de cet entraînement à sa suite dans une nouvelle réalité qui est celle du royaume. Et c'est là que je sais par rapport à je crois, c'est vraiment important de passer de l'un à l'autre et qu'il s'agit de quitter à « je sais qui est Jésus » pour entendre de « je veux marcher à la suite de celui qui ouvre de telles perspectives ».
La sainteté, donc ici, elle est incarnée par Jésus. Alors Jésus de Nazareth, hein, d'abord il commence par Jésus de Nazareth.
En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas d'ici. Tu es à Capharnaüm et tu n'es pas de ce lieu-là. Toi, tu viens d'ailleurs. Qu'est-ce que tu viens à nous déranger à Capharnaüm, toi qui viens d'ailleurs? Vous êtes dans telle ville et puis un type débarque d'il y a 40 km de là et qui vient embêter vos affaires. Non, mais qui retourne chez lui. Il s'occupe de chez lui, nous chez nous. Donc c'est cette idée de quoi entre toi et nous, qui était au début de sa parole. Je veux dire, chacun son domaine. Ici, c'est chez moi, dit l'esprit impur. Et Jésus va lui dire, tais-toi.
Justement, François Lestang, Jésus interpelle l'esprit vivement, tais-toi, sors de cet homme. Donc Jésus, qui est la parole vivante, ordonne à l'esprit de se taire et sortir de l'homme. Donc on retrouve la notion d'autorité qu'on avait au début, quand les personnes l'entendaient, mais c'est une autorité en acte.
Cette fois-ci, oui, c'est l'acte. On avait vu dans le désert que Jésus était avec l'adversaire pendant 40 jours, mais qu'il a été sorti vainqueur de cette tentation. Et là, maintenant, cette autorité qu'il avait de dire « le royaume est là », ben si c'est Dieu qui est roi, ce n'est personne d'autre qui est roi, et sûrement pas ces mauvais esprits. Donc oui, c'est une autorité en parole et en acte, et c'est ça qui impressionnera le plus après ceux qui sont là. Et cette parole, donc, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est « tais-toi ». Et ensuite, sors de cet homme. Alors le « tais-toi », ça marche à peu près, puisqu'il y a quand même un grand cri, mais il n'y a plus cette parole exprimée. Donc il n'est plus en mesure de dire ces paroles qui peuvent troubler, soi-disant dire la vérité. Et régulièrement, on verra que Jésus fait taire les esprits mauvais parce qu'il s'agit de faire un chemin. Il s'agit d'être unifié et pas de dire « je sais qui tu es ». Le « je sais qui tu es » bloque la relation. Et puis ce « tais-toi » va avec « sors de lui », un ordre pour que ce qui était au sein de l'homme, de cette souffle mauvais, de cette vie mauvaise,
de la division intérieure,
de la division, soit finalement chassé de lui pour qu'il puisse retrouver son unité.
Alors l'esprit impur fait entrer l'homme en convulsion, nous dit Marc, puis poussant un grand cri, il sort de lui. On imagine la scène, ça devait être très impressionnant quand même.
Oui, c'est ça. Alors ceux qui ont vu le film L'Exorciste ont peut-être des idées derrière la tête, mais c'est sûr que le plus important, c'est la fin, sortie de lui. Oui, c'est pas sans combat que se fait cette victoire de Jésus sur l'esprit mauvais, qui abandonne son territoire et qui, dans d'autres paraboles, dira « j'aimerais bien y revenir ». Et donc, il y a cette question de qui va être le Seigneur dans la vie de cet homme-là. Mais c'est vrai qu'il y a l'autorité, et c'est très, oui, très théâtral, très manifeste, de cette secousse, ces convulsions de l'homme, et puis ensuite, cette sortie. Et donc, l'homme se trouve libéré désormais de cet esprit qui prétendait savoir, prétendait être un « je » et un « nous » à la fois, et qui maintenant va être libre, cet homme sera libre pour pouvoir entendre cette fois-ci la parole de Jésus.
François Lestang, Marc nous dit que devant la scène qui vient de se dérouler, ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « qu'est-ce que cela veut dire ?» Ils sont effrayés, nous dit le grec. C'est de la peur, c'est quoi exactement?
C'est de l'inattendu. De fait, il y a quelque chose qui se passe là, qu'on n'entendait pas dans une synagogue, on est tranquillement à la messe, et voilà qu'il se passe quelque chose complètement inattendu. Le prédicateur, non seulement annonce l'évangile, mais voilà qu'il y avait un souci grave, un trouble dans l'assemblée, et que voilà, d'une parole, il dit quelque chose, et la personne qui est complètement agitée se trouve tout à fait calme. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ce sentiment de crainte devant le divin, quasiment dire, Dieu doit être par là, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Et on va voir tout au long de l'évangile, les disciples qui vont dire, mais qui est cet homme qui peut apaiser la mer? Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Qui est-il? Et toute la question, c'est genre de cheminer avec lui pour comprendre qui il est. Et pour ça, les premiers mots de l'évangile sont précieux. Parce que on a, au tout début de l'évangile, comme un titre, on dit « commencement », c'est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. Et si on regarde l'évangile, ça commence comme ça. Premièrement, c'est Jésus. On sait que c'est Jésus.
L'humanité.
Et puis, à partir du chapitre 8, Pierre va dire « tu es le Christ ». Mais le Christ, ça veut dire « monter à Jérusalem ». Et une fois qu'il sera à Jérusalem, il est révélé comme le Fils. Et c'est comme Fils qui vient à Jérusalem au Temple, c'est comme Fils qui meurt sur la croix. Donc ce chemin, Jésus, le Christ, le Fils, c'est tout ce chemin pour découvrir petit à petit que, oui, c'est pas que Jésus. S'il est Christ, c'est pas comme on le pensait, mais surtout, il est le Fils qui nous conduit nous aussi à la filiation, dans une relation à Dieu.
Et surtout, c'est une relation qui prend du temps, de la patience, et quand le démon dit « je sais » directement, on est sur la mauvaise voie.
Là, il interrompt tout le processus de croissance qui est tellement important pour Marc, on le retrouve dans les paraboles au long de l'été, hein, ces paraboles de croissance. Voilà, cette confiance de Jésus qui sème une parole, mais il faut donner le temps à la parole de porter son fruit.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
À la fin de ce passage, Marc conclut, François Lestang, la renommée de Jésus se répandit aussitôt, partout, dans toute la région de la Galilée. Alors à nouveau ce petit mot, aussitôt.
Oui, c'est même la troisième, parce qu'il y en a un qui n'était pas traduit dans notre traduction liturgique, qui était juste au moment où l'homme possédait manifeste, il y avait aussi en grec le kaiotus et aussitôt. Donc on a trois fois le et aussitôt, dans un texte très court finalement, hein, en 8 versets, trois fois le et aussitôt, pour remarquer ce rythme qui dit, il s'agit d'avancer à la suite de Jésus, et de dire, bon, mais qui est-il? Et c'est vrai que cette question de l'identité de Jésus, une question clé de l'évangile de Marc, cheminer pour découvrir, mais quel est celui-là qui est autrement que ce que je pensais, et qui me déplace et qui me dit, mais passe derrière moi, c'est à ma suite que tu vas découvrir ce qu'il en est du royaume.
François Lestang, nous avons pris le temps de lire avec vous l'évangile de ce dimanche chez Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. En quoi cette parole est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui?
Je crois déjà que c'est bonne nouvelle dans cette autorité de Jésus sur nos pseudo-savoirs. Parfois, nous aussi, on est habité par le fait que je sais qui tu es. Parfois, ça peut être dans le couple ou dans la communauté, on sait. Penser savoir qui est l'autre et entendre que si c'est ça, il vaut mieux qu'on se taise. Il vaut mieux, au contraire, que ça sorte de nous, ce savoir, parce qu'il s'agit d'entendre une parole de foi et de laisser grandir. Et puis, cet enseignement de Jésus qui nous dit, il y a quelque chose à entendre qui dépasse ce que je savais. Et donc, cette confiance que quand on scrute l'Écriture, on y trouve un trésor absolument extraordinaire à la parole de Jésus. Donc, cette fréquentation de Jésus qui nous déplace, qui nous fait taire et qui en même temps nous ouvre à autre chose. Et je crois qu'il y a cette dimension d'unification qui est là posée, ce Jésus qui nous permet une unité que tous ces esprits mauvais de l'époque comme parfois d'aujourd'hui ne peuvent vaincre parce que c'est lui qui est le Seigneur. Mais bien sûr, c'est le début du chemin. Et donc, qui dit début du chemin dit qu'il faudra s'arrêter pour l'écouter et puis cheminer avec lui et découvrir aussi que il y a plein de choses qui vont devoir changer de ce que je pensais savoir même de Jésus. Et donc ça aussi, être mis en route à la suite de Jésus pour être libéré, pour être unifié.
Pas savoir sur l'autre et aussi pas savoir sur Dieu. Parce que souvent, nous pouvons dire « je sais qui est Dieu, ça se passe comme ça, j'ai compris ». Ça nous invite à l'humilité, ça.
Et la lettre de Jacques dit « les démons savent qu'il y a un Dieu, mais ils tremblent ». Parce que l'enjeu, c'est pas tellement de savoir, mais c'est de connaître et d'être connu. Et donc, cette dimension de croire en celui qui m'a appelé, et donc faire ce chemin d'une humanité, celle de Jésus de Nazareth, vers une mission, le Christ, et puis de là, déployer vers la dimension de la filiation, c'est ça qui est, je crois, le chemin pour nous aussi, recevoir la mission, et puis surtout être fils. Et cette dimension d'une fraternité, d'une unité, ça permet de trouver chacun un chemin et d'être unifié dans le lien avec le Père.
L'homme que Jésus guérit, là, qui est à la synagogue, il est colonisé par une sorte de voix intérieure. On pourrait dire aujourd'hui qu'il souffre de schizophrénie, finalement. Il y a un terme pour ça, psychiatrique. Jésus vient le guérir. Alors, en quoi cette guérison, elle nous touche aujourd'hui, nous? Parce qu'on peut se dire, c'est pas pour moi, cette histoire.
Alors, je crois que, heureusement pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas dans un cas de possession. Mais c'est vrai qu'on est traversé souvent par ces petites voix qui prétendent dire « oh ben c'est comme ça, je sais comment ça se passe, c'est toujours comme ça ». Et je crois que ça nous ouvre à l'espoir. Donc cette victoire de Jésus sur un cas extrême pour mes petits combats, mes petits défauts, m'ouvre-moi à l'espérance que même là-dessus, il va y avoir la victoire. Et puis, je nommais tout à l'heure l'autre démoniaque, celui qui avait la Légion, qu'on trouvera au chapitre 5 de Saint-Marc.
C'est la fameuse histoire où
les cochons se jettent dans la mer.
Voilà, les esprits vont dans les cochons et tombent
Mais
de la falaise.
À la fin, ce qui est très beau dans ce texte-là, c'est que le démoniaque demande à Jésus de venir avec lui. Je lui dis non, mais va annoncer au tien ce que le Seigneur a fait. Et de fait, cette libération-là du démoniaque de Gérasa le fait de lui un apôtre, fait de lui un ministre, fait de quelqu'un qui est capable de témoigner de cette libération qui est donnée. Alors là, on nous le dit pas, parce qu'on va passer à autre chose, on va passer à la belle-mère de Pierre, et puis aux guérisons de toute la ville elle-même, et puis la matinée de Jésus, la nuit de Jésus dans la prière. Mais il y a cette dimension-là de dire, ça va ouvrir à un témoignage sur ce royaume qui advient. C'est ça qui est en jeu pour, je crois, cet homme-là aussi. Il pourra être témoin désormais de cette advenue du royaume, de cette unification qui lui est donnée, cette liberté par rapport à tous ces jugements, tout ce savoir faussé qui empêchait d'accueillir la présence de Jésus.
Chez Marc, très souvent, il y a la prescription de dire « tais-toi, c'est pas la peine d'en parler, rentre chez toi, n'ébruite pas ce qui vient de se passer ». Et on peut être surpris parce qu'on se dit bah, « quand on suit Jésus, il faut le dire ».
Il faut le dire pour que ça puisse être reçu. C'est pour ça que cette dimension de la graine semée en terre, elle est graine, donc elle est vraiment là, elle va porter son fruit, mais il faut lui donner le temps de la croissance. Et je crois que c'est très important dans l'évangile de Marc de cheminer. C'est sur la suite, il y a toute une section des chapitres 8 à 10 où Jésus est sur la route vers Jérusalem, et cette dimension d'être sur la route, c'est très important. C'est donner le temps du cheminement, ne pas aller trop vite avant de poser une parole. Même avant que Pierre puisse dire « tu es le Christ », il y a tout un long cheminement qui doit se faire à travers plein de compagnonnages et plein d'incompréhensions aussi. Mais on se donne le temps de l'incompréhension, on se donne le temps du compagnonnage. C'est ça, je crois, que Marc nous ouvre, cheminer avec Jésus pour, à terme, arriver à la parole. Et c'est quand la parole vient trop tôt, en fait, elle n'est pas recevable.
Les gens qui écoutent Jésus à la synagogue sont frappés d'étonnement, nous dit Marc. 2000 ans après, François Lestang, comment nous laisser surprendre, étonner par les paroles de Jésus, les écouter vraiment?
J'ai l'impression que c'est encore le cas. Je crois qu'on travaille en petits groupes de lecture de textes bibliques et qu'on écoute la parole lue par d'autres et ce que d'autres y voient. On est toujours impressionné par la richesse de ce qui nous est donné d'entendre et parce qu'on n'avait jamais vu ça comme ça. Parce que derrière ça, il y a quelque chose de fait qui est porté par un esprit de vie, et que ces textes-là, aujourd'hui, en les lisant tout seuls, mais surtout quand on les lit ensemble, ils ouvrent, je crois, cet univers de sens, ce royaume déjà présent, et ils peuvent me faire changer de regard, ils peuvent me changer de compréhension sur ce que je pensais savoir. Il y a, je crois, toujours, encore et encore, une irruption de la parole qui peut se faire quand on la lit ensemble, en état, comme on l'a fait aujourd'hui.
Merci à vous, François Lestang. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Merci à Antoine Picot, à la réalisation technique.